Règle numéro 1 absolue, quand le S&P 500 vient toucher sa moyenne mobile des 50 jours, on débranche le cerveau, on achète sans se poser de questions, on casse la tirelire du petit dernier, on fait les fonds de tiroir, peu importe, mais on achète. Ah oui, oui, je sais, je suis d'accord avec vous, un jour ça va craquer, le support va céder, et on finira tous comme des poulets en sans-tête à courir en hurlant « Oh my God, oh my God !» Mais pour l'instant, il n'y a rien d'autre à faire, c'est « buy the dip » et puis c'est tout. Pourtant, hier matin, l'ambiance n'était pas franchement à la fête, entre Warsh qui pèse sur le moral et qui génère des doutes et questions, les métaux qui s'effondrent et le deal OpenAI-Nvidia qui commence à ressembler à un carambolage en chaîne dans le brouillard, les marchés avaient un tout petit peu la gueule de bois. En Asie, c'était le bain de sang et en Europe, ça ouvrait rouge vif. Et là, miracle, l'étincelle que personne n'attendait, les chiffres manufacturiers américains. Je vous l'avoue humblement, je sais plus ce qui fait bouger le marché. Par contre, ce que je sais, c'est que les acheteurs sont tellement organisés et puissants que vendre contre la tendance est devenu un sport extrême. Soit vous êtes un sniper du trading capable de racheter à chaque micro-mouvement à la baisse, soit vous vous asseyez sur vos mains et vous attendez la vague d'achat qui va inévitablement déferler à la moindre fabuleuse nouvelle. Oui, parce que finalement, elles sont toutes fabuleuses, ces nouvelles. Bienvenue dans ce Morning Bull Live, je suis Thomas Veillet et nous sommes le 3 février 2026.
Cette émission vous est présentée par SwissQuote.
Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit.
Et hier, la star de la journée, c'était l'indice ISM manufacturier. Un chiffre dont, soyons honnêtes, on se fout royalement 90% du temps. Mais hier, non, pas du tout. Hier, selon les experts, c'était le Graal. L'élixir de jeunesse, c'est ce chiffre qui a subitement renforcé la confiance dans l'économie nationale, voire de l'économie mondiale carrément. Le score, c'était 52,6 contre 48,4 attendu. Nous sommes au plus haut depuis l'été 2022. C'est fascinant. On est le 3 février et on se pâme devant un indice secondaire comme si on venait de découvrir le vaccin contre la récession et le Covid en même temps. Et alors, comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, on nous a ressorti le couplet de l'apaisement géopolitique. Pourquoi ? Eh bien parce que Trump, il va voir les Iraniens en Turquie vendredi, enfin, pas Trump, mais ses hommes. Le pétrole se dégonfle, on se dit qu'on n'aura pas de guerre mondiale avant lundi prochain. Donc du coup, on achète parce qu'on est rassuré. Et alors on achète quoi ? Eh ben de l'IA, des puces, évidemment. Ça n'a aucun rapport avec l'ISM ou l'Iran. On s'en fiche, c'est le seul truc qui explose vraiment. SanDisk, Micron et toute la bande ont littéralement fait sauter les compteurs. On en est donc là. Le pétrole est repassé sous les 62$ parce que le marché a décidé, dans sa grande sagesse, qu'il n'y aurait finalement pas de guerre totale entre l'Iran et les USA. On respire, tout va mieux. Tout va mieux ! Et puis surtout, surtout, on se réjouit de voir que les au pouvoir à Téhéran vont pouvoir continuer à massacrer leur peuple tranquillement, le tout au nom d'un accord nucléaire négocié avec le futur prix Nobel de la paix, qui se trouve être accessoirement le président américain. Appelez ça des signes de détente. Si vous voulez, moi j'appelle ça un signal d'achat pour des investisseurs qui ont la mémoire d'un poisson rouge. Résultat, un 180 degrés magistral hier, tout est vert ce matin, et le S&P 500 est à 2 mm de ses records historiques et bien sûr, de la barre mythique des 7000 points. Pourtant, regardons quand même la réalité en face. Rien n'a changé. Les doutes sur Warsh, ils sont toujours là. Le shutdown partiel aux États-Unis, il est toujours là également. Ça fait 3 jours qu'on nous balade avec un soi-disant accord entre les républicains et démocrates. On nous jure que ce sera très court parce que, comme chacun sait, les politiciens sont des génies altruistes et pas du tout des narcissiques centrés sur leur nombril. Et pour couronner le tout, la cerise sur le gâteau de l'incompétence, les chiffres des non-farm payrolls de vendredi sont annulés. Rideau. Bon d'accord, pas annulé, repoussé jusqu'à nouvel ordre. Pourquoi ? Eh bien parce que les clowns du BLS, le Bureau of Labor Statistics, ne bossent pas depuis vendredi à cause du shutdown. Et comme il leur faut au moins une semaine complète pour réussir à bâcler leurs chiffres pourris, eh bien ils ont jeté l'éponge. On est donc en train de naviguer à vue dans un brouillard total, mais attendez, l'ISM était bon. Alors, achetons tout ce qui brille avant que la réalité ne vienne frapper à la porte lundi prochain. Ou alors mardi. Mais attention, c'est pas grave. Hein. C'est pas grave parce que tout va bien, parce que le shutdown devrait prendre fin aujourd'hui. Enfin, si nos brillants politiciens du Congrès et du Sénat arrivent à mettre leurs égos au placard, ce qui est, on est bien d'accord, hautement improbable. Mais dès que l'accord sera signé, paf, on aura nos chiffres des non-farm payroll. C'est formidable, hein. On nous prend ouvertement pour des cons et nous, on leur demande. Bon, et c'est pas tout, hein, parce qu'après les chiffres exceptionnels de l'ISM, le message est passé, la Fed ne va pas baisser les taux de sitôt. Eh oui, en plus, ça rime. Résultat, les rendements ont repris l'ascenseur et le 10 ans américain repasse au-dessus des 4,28. Ça fait 30 mois qu'on nous vend la hausse des marchés avec l'argument de la baisse des taux, grâce à la baisse des taux. Et là, non seulement on comprend que c'est mort pour demain, mais je prends les paris, bientôt on va nous expliquer qu'il serait quand même beaucoup plus intelligent, voire pas complètement idiot, de les monter. Les taux. D'ailleurs, les Australiens, ils l'ont fait ce matin. Ils ont monté les taux à cause des pressions inflationnistes. Bah, peu importe, hein, on discute pas avec un marché qui achète n'importe quoi à n'importe quel prix, tant qu'il y a l'étiquette IA dessus. On a encore pu le voir hier avec Teradyne et Palantir. Les croissances explosent, les guidances sont pulvérisées, c'est l'euphorie. Mais pendant qu'on fait la fête, Oracle et Amazon licencient, Jensen Huang nous fait comprendre à demi-mot que les 100 milliards d'OpenAI, bah c'est pas tout à fait pour tout de suite, sans compter que les CDS d'Oracle s'envolent et que plus personne veut leur prêter du fric. Oui, la trouille, ça se commande pas. Et puis hier à la télé, il y avait Ray Dalio qui était là et qui disait « La question n'est pas de savoir quand la bulle va péter, mais de réaliser que les performances des 10 prochaines années vont prendre très cher. » JP Morgan vient de sortir une étude. Si vous achetez avec un PI moyen au-dessus des 23, votre rendement annuel moyen sur 10 ans, c'est entre moins 2 et plus 2%. On parle pas de tenir la position jusqu'aux prochaines vacances scolaires, hein. On parle juste de la prochaine décennie. Oui, parce que la question, c'est ceux qui prévoient l'explosion de la bulle Internet, eh ben, il y en a plein qui l'ont fait par le passé. En 29, mais trop tôt. En 87, mais trop tôt aussi. En 2000, mais trop tôt également. 2007 aussi. Donc, il y a eu plein de prédicateurs qui sont venus trop tôt, qui ont eu raison trop tôt. Entre temps, le marché est encore monté. C'est peut-être ce qu'il est en train de faire encore. Mais le jour où ça baisse, si maintenant on achète, et vous restez dedans pour les 10 ans, eh ben ça va vous faire bizarre en termes de performance. Même s'il n'est pas sûr que vous perdiez de l'argent, sur 10 ans, la performance risque d'être médiocre, et c'est ce dont Ray Dalio nous mettait en garde hier. Et puis alors, c'est magique, c'est vraiment magique, regardez le KOSPI en Corée. Hier, on perdait 5%, on paniquait sur les profits futurs de l'IA, et ce matin, plus 5%, on achète pour les raisons plus ou moins les mêmes, mais l'inverse, c'est la rationalité incarnée, n'est-ce pas? Vous trouvez pas? Le Nikkei ce matin, il prend 4% dans le sillage de Teradyne et tout le monde oublie les élections du 8 février. Et l'Inde? Bah, l'Inde, ils ont signé un accord douanier avec Donald Trump. On passe de 25% de droits de douane à 18%, à condition, bien sûr, qu'ils achètent américains, surtout du pétrole et du pétrole vénézuélien qui appartient aux Américains et qu'ils oublient le pétrole russe. Bah, c'est plus un accord commercial, c'est du racket pur et simple. Modi va bientôt devoir aller baiser la chevalière de Trump à Washington pour éviter de retrouver une tête de cheval dans son lit. Résumé, le pétrole est à 61,80, l'or remonte à 4900, l'argent remonte à 84$, le bitcoin est à 78,300 parce que Trump est devenu a very much bitcoin person selon ses déclarations d'hier. On est donc dans un asile psychiatrique à ciel ouvert, mais tant que ça monte, bah on achète. Parlons un peu des publications. À côté de Teradyne, on a eu Palantir, et là c'est le carton plein. Le titre s'était fait déglinguer depuis le début de l'année avec tout le secteur software, mais apparemment, il faut plus comparer Palantir à Oracle ou Microsoft. Alex Karp a sorti un trimestre monstrueux, 1,41 milliard de chiffre d'affaires, un BPA qui bat le consensus et surtout un moteur américain en mode turbo, plus 93% de revenus sur le segment commercial et gouvernemental. La guidance pour 2026 est tout simplement insolente, plus 61% de croissance attendue et le résultat, plus 12% after close. Le dilemme, c'est que c'est en feu, c'est gavé d'IA, mais la valo est tellement tendue que les investisseurs transpirent en se demandant s'ils doivent monter dans le train maintenant. Et puis, il y a Disney. Alors eux, ils doivent regretter de ne pas avoir remplacé Mickey par un robot qui fonctionne par l'intelligence artificielle. Ils ont sorti des chiffres meilleurs que prévu et pourtant, moins 7,4% à la clôture, sanction immédiate. Le chiffre d'affaires monte, oui, les croisières font le job, oui, le streaming est enfin rentable, mais le bénéfice par action recule de 7%. C'est le paradoxe Disney. C'est mieux que prévu, mais c'est moins bien qu'avant. Entre Blanche-Neige woke et l'absence de successeur à Bob Iger, le marché commence à se dire qu'il vaudrait peut-être mieux démanteler la souris pour sauver les meubles. Mais l'annonce qui atomise tout, c'est celle d'Elon Musk. Le gars a décidé tout seul de s'auto-fusionner, SpaceX et xAI. Le but, créer, je cite, le moteur d'innovation le plus intégré verticalement sur Terre et au-delà. Pour le au-delà, il prend pas trop de risques, hein, parce que mis à part Buzz l'éclair, la concurrence est quand même relativement limitée. Mais on parle déjà de la plus grosse IPO de l'histoire, une valo entre 1250 et 1750 milliards de dollars. Elon ne veut plus seulement dominer la Terre, il veut aussi dominer l'univers et si possible Wall Street. Pour le reste de la journée, on va continuer de surveiller les chiffres du trimestre. Et côté macro, comme les clowns du BLS font grève, on n'aura pas les chiffres de l'emploi vendredi, il va falloir donc se contenter des autres chiffres qui sortiront d'ici là. Et aujourd'hui, c'est les JOLTS. C'est quand même super excitant, non? Les futurs sont en hausse, les barrières sont prêtes à sauter, les barrières des 7000 points. Après tout, tout va tellement bien et le monde est si calme et la géopolitique si apaisée. C'est que du bonheur, il ne manquerait plus qu'un tweet de Trump pour nous annoncer qu'il nomme Jared Kushner à la tête de la Fed et la boucle sera bouclée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker, de partager, de commenter. Merci pour tous vos commentaires, d'ailleurs c'est toujours hyper sympa. Et on se voit demain, comme d'habitude. Bye bye.
Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.